La sortie d'Égypte du peuple d'Israël se fera par la puissance incroyable de Dieu. Preuve qu'aujourd'hui encore, Dieu est capable de délivrer par la même puissance toute personne qui vit et qui subit un esclavage intérieur. Car on ne peut pas se sauver soi-même. C'est de la main de l'extérieur que le Seigneur est venu délivrer son peuple. On ne peut pas se sauver soi-même. Le Seigneur lui-même doit venir du ciel sur la terre pour nous sauver. On ne peut pas se changer soi-même, on ne peut pas se délivrer. Il faut la puissance de Dieu pour le faire. Il faut le salut de Jésus. Nous avons vu également que la délivrance d'Égypte, en passant par la mer Rouge, est une étape extrêmement importante qui ressemble et qui est l'image du baptême. Du baptême qui est un changement de royaume. Le royaume d'Égypte est derrière, le royaume de Dieu est maintenant là. Je change de maître, ce n'est plus Pharaon qui dirige et qui opprime ma vie, qui me maintient dans une oppression et dans un esclavage qui m'empêche d'être libre et qui m'empêche d'être moi-même et d'entrer dans le plan de Dieu. Et je passe maintenant sous la main et dans la main, pas sous seulement la main, mais dans la main de Dieu, dans laquelle je veux rester. Et nul ne nous ravira de sa main. C'était aussi dans cette mer rouge que s'est accomplie la défaite totale de l'adversaire, les armées de Pharaon. Nous apprenons au travers de ces messages, de cette délivrance d'Israël, que c'est par la grâce et la compassion de Dieu que tout ça, ça a été mis en route. Ce n'est pas seulement les gémissements d'Israël qui ont provoqué l'action de la main de Dieu, mais c'est Dieu lui-même, par sa compassion, qui est venu, qui a dit « J'ai vu leur détresse, j'ai entendu leurs soupirs et leurs cris, et je suis descendu pour les délivrer. » C'est la compassion de Dieu. C'est par sa compassion qu'il s'est mis en route pour venir vers toi aujourd'hui. C'est la compassion de Dieu que je souligne dans toute l'évaluation de ce texte, toute l'étude de ce texte. Au travers de cette délivrance, de ce passage de la mer Rouge, eh bien, va se faire quelque chose qu'Israël va devoir apprendre dans le temps. Ça va être un processus. Il faut apprendre à vivre dans l'alliance, dans ce lien, dans cette union entre Dieu et son peuple. Et Dieu, bien sûr, gère cette union, cette alliance. C'est lui qui préside à cette alliance et c'est lui qui sera toujours fidèle à cette alliance. Si Dieu est fidèle, même si nous ne sommes pas toujours fidèles, lui reste fidèle à l'alliance. Et à cause de sa fidélité à l'alliance qu'il avait déjà contractée avec Abraham, Isaac et Jacob, qu'il va maintenant rappeler, c'est pour cela qu'il est venu délivrer Israël et c'est pour cela qu'il va faire ce parcours avec Israël pendant 40 ans dans le désert en éduquant son peuple parce qu'il est dans l'alliance. Vous êtes dans l'éducation de Dieu dans la mesure où vous êtes dans l'alliance de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu, comme un berger, comme un père, prendra tout en main et coûte que coûte, il va réussir son œuvre parce que vous êtes dans l'alliance. Le désert devait être une étape, pas un endroit où on demeure. C'est un passage. Les 40 ans dans le désert, il faut le rappeler, ce n'était pas le plan ni la volonté de Dieu. Ils ne sont pas restés si longtemps dans le désert. Ils ne sont pas restés à cause de leurs ennemis dans le désert, mais à cause de leur mauvaise attitude. Parfois, nous tournons en rond dans les déserts, ce n'est pas à cause du diable. Et on dit, le diable m'attaque, le diable m'empêche ceci ou cela. Souvent, c'est à cause de notre incrédulité, comme dit le texte biblique, la révolte et notre mauvaise attitude. Donc, ils sont sortis d'Égypte maintenant. Mais, et c'est là que le désert devient révélateur, c'est là que ce passage, cet intermédiaire entre l'Égypte et le pays promis où ils vont s'installer, ce passage intermittent, va révéler le cœur. Car s'ils sont sortis d'Égypte, l'Égypte n'est pas sortie de leur cœur. Si nous sommes délivrés par la puissance de Dieu, si nous connaissons Jésus, si nous sommes déjà même remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour autant que nous sommes transformés. Si nous sommes touchés, c'est bien, nous ne sommes pas encore transformés pour autant. Il y a le temps et le processus de la transformation qui est indispensable. Oui, la nature véritable du peuple va se faire jour très rapidement. Et pour cela, Dieu place le peuple dans un contexte qui n'est pas facile. Parfois, nous sommes placés dans des contextes que nous n'aurions jamais choisis nous-mêmes, mais par lesquels nous sommes obligés de passer pour que notre cœur se révèle, pour que nous soyons justement délivrés de toute l'Égypte qui nous habite encore et que nous soyons transformés à l'image parfaite de Jésus. Et c'est pour cela que nous ne devons pas murmurer ni nous révolter contre les circonstances parfois dans lesquelles nous sommes, que nous n'avons pas choisies et qui nous semblent tellement peu favorables. Ça ne ressemble pas au bonheur idéal, à une page romantique avec le Seigneur. Au lieu de choisir les belles plages, le Seigneur choisit le désert ou les montagnes difficiles à gravir. Mais il nous impose certaines choses pour que, après avoir souffert un peu de temps, en étant à l'école du Saint-Esprit, nous soyons affermis, enracinés, transformés et rendus inébranlables. C'est le projet de Dieu. Le désert donc va servir à désapprendre certaines choses, à se désintoxiquer de 400 ans d'esclavage. Ça va être un temps de stage pour se défaire, se dépouiller, afin de devenir un lieu d'éducation et de formation. Si le désert est un révélateur, va mettre en lumière les choses qui ne marchent pas dans le cœur d'Israël, il ne faut rien de moins que la puissance du Saint-Esprit pour transformer le peuple. Regardez avec moi dans deux textes prophétiques, Jérémie 31-31, facile à retenir, 31-31, où le Seigneur montre justement qu'on ne peut pas se changer soi-même. Cela concorde avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Il nous faut un sauveur, il nous faut le Saint-Esprit. Donc voici ce qui est dit dans Jérémie 31-31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, transgressée, quoique je fusse leur maître. C'est toute l'histoire. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu va écrire sa loi, non plus sur des tables comme Moïse va bientôt le faire lorsqu'il sera sur le Sinaï pour recevoir les lois de Dieu, mais ce sera écrit ailleurs. Mes amis, pour vivre une vie chrétienne épanouie, il ne faut pas seulement que nous ayons des lois dans notre Bible qui nous dicte le chemin et qui nous montre ce qu'il faut faire ou pas faire. Il faut arriver à vivre la puissance du Saint-Esprit qui, lui, va écrire sa loi, qui va prendre la parole vivante et qui va l'inscrire dans notre cœur pour que nous ayons envie de la faire. Pas que nous soyons obligés de la faire, mais que nous ayons envie de la faire, de l'intérieur. Que notre volonté, notre désir et notre besoin soient le désir, la volonté et le désir proche du Seigneur. Que ce que je veux soit ce que Dieu veut, ce que j'aime soit ce que Dieu aime, et que je puisse m'éloigner des choses dont Dieu me dit « éloigne-toi de ça, ce n'est pas bon pour toi ». Et je comprenne ces choses, parce que la loi est inscrite au fond de nos cœurs. Ézéchiel 36, autre texte parallèle, deux textes qu'il faut vraiment connaître, qui sont prophétiques et qui ont attrait au Saint-Esprit, verset 24, 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Donc c'est les questions du retour d'Israël. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. L'œuvre de Dieu est une œuvre surnaturelle, frères et sœurs. Le Saint-Esprit va faire. Le Seigneur va faire ce que nous ne pouvons pas faire. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? On ne peut pas suivre le Seigneur avec nos propres forces et nos bonnes intentions. Cela est trop court. Il faut la vie du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Et Israël va se confronter à chaque fois dans cette marche dans le désert, Parce qu'il lui manque le Saint-Esprit qui transforme, justement. Il va continuellement murmurer et c'est presque incroyable de voir une telle répétition de problèmes qui se répètent tout le temps. C'est assez incompréhensible. Mais justement, c'est parce que la puissance de transformation du Saint-Esprit n'est pas encore là. Et Moïse, fatigué, arrivé jusqu'au bout, il est arrivé au bout du rouleau à un moment donné. Il va dire, Seigneur, maintenant, ça, j'arrive plus, c'est trop. Et là, le Seigneur, en faisant comprendre, tu vois Moïse, maintenant tu comprends de quoi ce peuple a besoin. Il a besoin du Saint-Esprit qui transforme. Et c'est pour ça que je vous ai laissé aller jusqu'au bout pour que vous compreniez que vous en avez besoin. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes une église où on parle du Saint-Esprit qu'on va imposer ce message. Vous devez sentir que vous en avez besoin, éperdument besoin. Nous avons éperdument besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et le peuple devra comprendre ça et Moïse va dire, alors qu'il est au bout du rouleau, il va venir auprès du Seigneur et le Seigneur va dire, Moïse, je vais prendre de l'Esprit qui est sur toi. Moïse était au bout du rouleau. Il sentait tout sauf la présence et l'onction du Saint-Esprit. Mais le Seigneur lui dit, Moïse, même si tu te sens au bout du rouleau, tu as encore le Saint-Esprit. Et je prendrai l'Esprit et je vais le répandre sur 70 anciens. Et puis Moïse va dire un peu plus loin, lorsque Josué va dire, mais il y en a d'autres qui prophétisent ailleurs. Et il va dire que tout le peuple soit rempli du Saint-Esprit. C'est ça le désir de Dieu, que le peuple reçoive le Saint-Esprit. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc c'est un processus. Et pour que le peuple soit amené en douceur dans ce processus de transformation, eh bien, Dieu va leur donner rendez-vous au pied du mont Sinaï pendant une année complète. Est-ce que vous saviez qu'Israël a campé pendant une année au pied du Sinaï? Et c'est là qu'à un moment donné, Moïse va monter sur la montagne pour recevoir justement les 10 commandements. Et Israël va devoir apprendre à connaître son Dieu qu'il ne connaissait pas. Ils étaient habitués à recevoir les ordres des maîtres d'esclaves, donc ils connaissaient le fonctionnement, j'obéis parce que je suis obligé, sinon je vais ramasser des coups. Et il transposait ça sur Dieu, si on n'obéit pas, on va ramasser des coups. Il ne connaissait pas l'obéissance par amour. Il ne connaissait rien de la grâce, il n'y avait pas la grâce en Égypte. Il n'y avait que la loi et l'obligation. La grâce était inconnue. La nature de Dieu était complètement inconnue, c'était nouveau. Et il fallait un temps de stage, un temps d'école biblique, un temps de repos, un temps de retraite au pied du Sinaï, pour justement apprendre à connaître les nouvelles lois que le Seigneur était en train de donner à Moïse. Ils avaient donc comme objectif de passer du statut d'esclave qui avait un certain fonctionnement transmis de père en fils, etc. Ils devaient passer de ce statut vers le statut de fils. Car Dieu avait dit à Pharaon, à Moïse, il avait dit, tu vas dire à Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dieu voyait dans son peuple son fils. Israël, c'est mon fils. Ce n'est pas mon esclave, c'est mon fils. Or, le peuple d'Israël vivait en tant qu'esclave et il avait besoin de changer de mentalité. Et le désert doit être un changement de mentalité. Il devait quitter la mentalité de l'Égypte et la mentalité du désert aussi, qui va mettre en évidence leur statut d'esclave et leur fonctionnement d'esclave pour devenir fils du Père qui participe. Et le fils dit, oui, papa, je suis convaincu que ce que tu veux pour moi, c'est bien. On est partenaire, je suis héritier. Ton œuvre, c'est mes intérêts. L'esclave, il fait juste ce qu'il faut faire, puis il ne s'intéresse pas. Il ne sera jamais héritier. Il ne va jamais être dans l'héritage, mais le fils va hériter. Donc cet héritage, il faudra gentiment, il faudra doucement. Et toute la douceur du Seigneur est exprimée, surtout dans le Deutéronome, 5e livre de la Bible, Deutéronome où Moïse va réécrire la loi à la veille d'entrer dans le pays promis. Il va redire l'amour du Seigneur. Il va redire combien Dieu a été bon et fidèle, combien il a pris soin de son peuple en le portant dans ses bras, comme un aigle prend soin de ses petits pour les emmener et leur donner d'apprendre à voler de leurs propres ailes, etc. il fallait apprendre à dépendre de Dieu. C'était tout nouveau. Frères et sœurs, l'école de la vie avec le Seigneur, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Alors, ni vous ni moi, nous sommes des esclaves. Peut-être nous ne sommes pas des fils ou des descendants d'esclaves. Ça peut quand même arriver. Aujourd'hui, il y a ça aussi. Mais nous avons besoin, même dans notre circonstance de vie très favorable au niveau matériel, il faut le dire, en Suisse, nous avons besoin d'apprendre, et ce n'est pas évident pour tous, de dépendre complètement du Seigneur. Rien de tel qu'un voyage dans le désert où vous êtes obligé de dépendre de certaines choses, sinon vous ne survivez pas. Nous avons donc vu que la première mentalité du désert qui se fait jour, ce sont les murmures. Que le peuple est vraiment prompt à murmurer et que Dieu, dans sa grande patience, va devoir supporter ça longtemps. C'était pas seulement une épreuve pour le peuple, c'était une épreuve pour Dieu aussi, le désert, de supporter les murmures. Tout comme chaque parent doit aussi apprendre la patience dans l'éducation avec ses enfants. Parfois, c'est éprouvant quand il faut répéter les mêmes choses sans arrêt. Hein ? Ça nous arrive. Chaque parent engagé dans le joyeux ministère de l'éducation sait que c'est un parcours qui nous met, en tout cas qui met nos nerfs à rude épreuve à certains moments. Hein ? Comment dépendre de Dieu ? Comment dépendre de Dieu ? Et la première chose qu'ils vont devoir apprendre, bien sûr, c'est la marche par la foi. Car en Égypte, il n'y avait pas besoin de foi. Le repas était assuré à tout moment, au moins ça, et d'ailleurs ils vont s'en souvenir à chaque fois. Ils vont dire, au moins en Égypte on avait à manger, et même des bonnes choses. Mais maintenant, dépendre de Dieu, même pour le repas quotidien, c'est juste tout nouveau et c'est juste improbable. Connaissez-vous le Notre Père ? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire, Seigneur, je dépends de toi aussi, même si c'est une évidence pour tous d'avoir le pain quotidien sur nos assiettes et nos frigos qui sont pleins. C'est relativement une évidence pour pratiquement tous, je pense. Et pourtant, je dis au travers du Notre Père, Seigneur, je suis dépendant de toi quand même. Je suis dépendant de toi en toutes choses. Donc ces murmures qui vont arriver pour le pain quotidien, pour la manne, etc., pour ces choses, marquent ce mécontentement intérieur, et murmure veut dire, c'est chuchoter à voix basse, c'est répandre sa petite critique à droite et à gauche pour dire on n'est pas content, on n'est pas satisfait, ni de Dieu, ni de ses leaders. La Bible dit, nous avons parlé de ça dimanche, que c'est une offense directe au Seigneur, c'est un rejet de Dieu qui déclenche sa colère et son jugement. Mais jamais Dieu ne juge sur un coup de colère. Dieu est patient. Cependant, nous ne devons pas provoquer la colère de Dieu. Elle existe. Il faudrait faire tout un message là-dessus pour connaître peut-être ce message effacé de nos jours ou très peu abordé de nos jours. Il existe une colère de Dieu. Il existe un jugement de Dieu. Nous devons savoir que ces choses non seulement existent, mais elles auront lieu, que Dieu va traiter aussi son peuple dans son éducation. Et que ces choses sont là afin que personne ne soit perdu, mais que tous arrivent à la repentance. Et que nous ne persistions pas dans les murmures sournois quelquefois qui nous envahissent et qu'on a envie de propager. Frères et sœurs, le texte dont je vous parle, l'histoire dont je vous parle, est rapporté dans le Nouveau Testament comme étant un exemple pour le monde entier, pour l'Église de tous les temps, afin que nous prenions garde de ne pas justement offenser le Seigneur et de rater son plan. Le Seigneur va éduquer, je l'ai déjà dit, avec douceur, avec amour. Et à chaque fois que le peuple murmure, le Seigneur est comme ce berger, comme ce père qui va l'aider, l'encourager par des miracles et par des encouragements. Il murmure, il va recevoir d'abord la transformation de l'eau mauvaise en eau potable. Ensuite, la manne va arriver miraculeusement. Ensuite, il y aura les cailles qui vont arriver. À chaque fois qu'il murmure, il se passe un miracle d'encouragement. Mais ce n'est pas la preuve d'un cœur transformé. Ce n'est pas la preuve d'un cœur transformé. Vous pouvez vivre des miracles, ce n'est pas pour ça que vous êtes franchement ou forcément transformé à l'image du Seigneur. Ce n'est pas pour ça que vous êtes forcément sanctifié. Ce sont des encouragements que le Seigneur met sur notre route. Mais son but et son projet, c'est que nous puissions être transformés par la puissance du Saint-Esprit, je le rappelle. La deuxième mentalité du désert dont je voudrais parler aujourd'hui se trouve dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, et nous lisons juste le verset 5. Une étude détaillée n'est pas possible d'être réalisée ce matin, mais lisez le chapitre 11 en particulier qui est très révélateur. Et les murmures commencent quelque part. Il est dit que ce sont le ramassis des gens qui se trouvaient là, à un moment donné, qui étaient favorables à ces murmures, remplis de convoitises, a commencé à allumer ce mouvement de contestation. Et ils disaient ensemble, au verset 5, « Nous nous souvenons de ce que nous mangeions en Égypte et de ce qui nous coûtait rien. » Comme si la manne leur coûtait quelque chose. Ça ne nous coûtait rien. Tout à coup, l'Égypte devient un jardin incroyable, un jardin des délices, un jardin d'Éden. L'Égypte, tant d'esclavage, sous la main de fer de Pharaon, devient attrayante. Donc la mentalité du désert que nous voulons combattre et éradiquer de notre vie, c'est la mentalité du regret. Car regretter, mes amis, regretter le passé qu'on a quitté, c'est reculer, c'est marcher en arrière. Vous perdez du terrain par les regrets. Déjà dans leur tête, ils étaient déjà retournés en Égypte. Si déjà dans votre tête, vous êtes dans le monde, vous êtes attiré par le monde et vous êtes rempli du monde, vous êtes déjà en train de reculer. Vous perdez déjà l'onction, vous perdez déjà votre force de témoignage. Les regrets commencent dans la tête, puis passent par la bouche. Ici, ils sont en train d'en parler. Les regrets arrivent comme par magie. C'est comme si Radio Nostalgie s'allume et amène ses tubes pendant toute la journée. Et le menu qu'ils avaient en Égypte les fait saliver carrément, comme une publicité en plein milieu d'un film. Si la plus grande victoire est la sortie d'Égypte, la plus grande défaite, c'est le retour en arrière. Comment peuvent-ils oublier si vite de quoi ils ont été délivrés? Frères et sœurs, ce n'est pas propre à Israël. Nous oublions parfois très vite de quoi nous avons été libérés. C'est pourquoi rappelons-nous des bontés de Dieu. Rappelons-nous ce que Dieu a fait dans notre vie. Écrivons ces choses, rendons témoignage et souvenons-nous toujours d'où nous sommes venus. Il faut que ce soit clair pour nous. Tu es venu de l'Égypte et tu es dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas venu du royaume de Dieu pour rester dans le royaume de Dieu. Tous, chacun, nous avons été un jour ou l'autre dans le royaume du péché et de la perdition. Même si vous êtes chrétien depuis votre tendre enfance, personne ne naît chrétien. On le devient par un choix clair. Même si nous avons eu toutes les circonstances des familles chrétiennes, etc., qui nous ont apporté beaucoup de bonnes choses, nous sommes nés dans le péché et le péché nous habite. C'est comme un virus qui est en nous. C'est comme une maladie qui est en nous. Nous avons tous le potentiel, même celui qui est le mieux éduqué parmi nous, nous avons tous le potentiel de retourner en Égypte, de pécher et de faire des choses graves. Nous avons tous ce potentiel-là. L'apôtre Paul aussi le dit. Le mal est attaché à moi. C'est pourquoi nous avons besoin de la repentance, du changement de royaume et de la puissance du Saint-Esprit pour être libérés et transformés. N'oubliez pas cela. C'est la transformation qui compte. Ce n'est pas seulement être touché. Ce n'est pas seulement vivre des miracles. Ce n'est pas seulement vivre la provision de Dieu au jour après jour. C'est la transformation du cœur. Une mentalité changée. Une mentalité de murmure qui cesse. Parce que je sais, mon Père sait ce qu'il fait. Même quand moi je ne sais pas ce qu'il fait. Quand moi je ne comprends pas, mon Père sait ce qu'il fait. Il sait par où il me conduit. Je n'ai pas besoin de me révolter à tout bout de champ et juste simplement le bombarder de mes questions. Bien sûr, nous pouvons apporter nos besoins au Seigneur, mais garde notre cœur propre. Garde ton cœur plus que toute autre chose, mon frère. Garde ton cœur, car de lui, de ton cœur, viennent les sources. Si ton cœur n'est pas en ordre, comment peux-tu répandre la bénédiction ? Je ne parle pas ici d'être missionnaire au loin. La bénédiction doit être répandue au sein de nos maisons. Comment veux-tu répandre la bénédiction si ton cœur n'a pas changé? Il faut être convaincu ce matin que notre cœur doit changer. J'en ai besoin. J'en ai éperdument besoin. Et peut-être vous allez dire, mais moi je suis déjà bien en route, je suis transformé. Je te dis ce matin, approche-toi encore du Seigneur. Approche-toi un peu plus. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre, va te convaincre de tout ce qui reste à faire. Nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier. Jésus va parler de cette mentalité du regret. Et il va dire, entre autres, Jésus va dire, souvenez-vous de la femme de Lot qui quittera Sodome et qui, à un moment donné, va regretter quelque chose qu'elle aimait dans Sodome. Elle va se retourner, elle va être bloquée sur place, devenir statue de sel. Vous n'avancerez pas lorsque vous êtes avec un œil qui est dans le passé, avec des regrets. Vous dites, ah, ça me manque quand même. J'aimerais quand même retrouver ça. Lorsque la plénitude, écoutez bien, lorsque la plénitude du Saint-Esprit manque, notre œil repart en arrière. Et le diable est spécialiste pour nous dire, tu vois ces choses-là. Tout à coup, vous tombez sur les bonnes images, les bonnes publicités, les bonnes choses qui vous rappellent tout ce que vous n'avez pas. Et vous dites, mais Seigneur, c'est comme pas possible, les autres, ils ont tout ça, et moi je ne l'ai pas, et moi je te suis. Et le diable nous fait regretter, nous dit, tu vois, Dieu n'est pas bon en fait. Tu vois, il ne pourvoit pas à tes besoins, il te prive de certaines choses. Ça arrive lorsque la plénitude et l'onction du Saint-Esprit est absente. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit, de cette manière nous ne serons pas touché par les pièges du monde et des regrets. Paul va dire, mais j'ai tellement en Christ que le monde est crucifié pour moi. Le monde, il peut venir avec les meilleures propositions, ça ne s'accroche pas. Il n'a rien à m'apporter, j'ai tout tellement en Christ. Non pas qu'il faut vivre comme un ermite et vivre seul et solitaire en essayant de s'accrocher aux bontés de Dieu. Le Seigneur veut nous remplir en étant pleinement dans le monde. Pleinement actif dans le monde, sans que le monde fasse naître en nous des désirs et des regrets. Frères et sœurs, lorsqu'il manque la plénitude, les regrets de l'Égypte frappent à notre porte. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu, dira Jésus. L'apôtre Paul va dire, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant, ça veut dire se tendre de toutes ses forces vers l'avant. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, on peut montrer ce passage qui est intéressant aussi, qui va dans le même sens. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux de ne jamais avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Le texte continue encore, vous lirez chez vous. Mais il y a une mise en garde par Jésus, par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre pour nous dire « Attention, le diable va venir avec les regrets du passé. Ça va frapper à ta porte. » Même si vous dites « Mais mon passé est tellement misérable, j'ai aucune envie de revenir. » Ne vous laissez pas piéger, il est malin et rusé pour nous faire saliver devant des petites choses que nous avons connues autrefois ou que le monde nous propose, qui sont des pièges, mes amis. Et on pourrait tellement raconter d'histoires et de témoignages où ces petits pièges ont été la perte du témoignage, la perte de l'onction de Dieu, ont été la perte de temps, la perte d'argent. Des petites choses dans lesquelles on est entré sans la volonté de Dieu, dans lesquelles on est entré parce qu'on croyait que c'était ça, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, soyons vraiment attentifs. Dans les compagnons de Paul que j'ai étudiés récemment, on voit qu'un certain homme du nom de Démas était un compagnon d'activité de Paul, un compagnon d'œuvre. Nous le voyons à plusieurs reprises, il est compagnon de Paul. Puis à un moment donné, Paul va dire ceci, Démas est reparti en arrière par amour du siècle présent. Il était dans le ministère avec Paul, mais à un moment donné, il est reparti en arrière. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et tout cela... Les regrets viennent lorsque Israël ne regardait que le sable brûlant, ne regardait que les pierres et le désert qui était sans fin, regardait tout ce qui lui manquait. Et les regrets de l'Égypte arrivent au galop. au lieu d'avoir en vue la vision du Seigneur, le pays promis, la présence de Dieu et tous les projets du Seigneur, son alliance et ses promesses étaient là pour qu'Israël soit captivé, touché par les promesses du Seigneur et par la vision de Dieu. Frères et sœurs, la clé est ici. Ne perdez pas de vue votre objectif. Ne perdez pas de vue ce que Dieu a prévu pour vous. Si nous ne voyons que le désert de notre épreuve, les difficultés dans lesquelles nous sommes en train de nous démener, nous aurons plus facilement envie de regretter. Recevons ce matin la vision du Seigneur. Les mentalités du désert qu'il faut combattre et vaincre, ce sont les murmures, ce sont les regrets du passé. Et voici que nous trouvons dans Exode 31, ce que j'aimerais vous détailler un peu plus. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Moïse est sur la montagne depuis 40 jours. Le 40e jour arrive. Le peuple sait qu'il est parti pendant 40 jours. Et le 40e jour arrive, Moïse est en train de descendre. Ses bras sont chargés de quoi? Des deux tables précieuses de la loi de l'Éternel. Il a sur lui quelque chose écrit de la main de Dieu même, qui sont des paroles, parce que c'est dix paroles. Ce n'est pas les commandements avant tout, ce sont les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu pour le bonheur du monde entier. Pour Israël d'abord, mais pour le monde entier. Il vient avec un trésor inestimable. Il est en train de descendre. En plus de cela, il a dans sa tête, peut-être qu'il a pris des notes aussi, tout le plan du tabernacle et tout le fonctionnement du service de Dieu. Mais juste avant ce grand cadeau, le plan de Dieu est complètement mis en danger et à deux doigts de basculer. Le sentiment de l'absence de Dieu déstabilise Israël. Ils ne sont pas encore sortis de la mentalité d'esclave. Quelque chose ne va pas, ils râlent tout de suite, ils réagissent au quart de tour. Ils ne peuvent supporter le silence de Dieu. Ça vous arrive, ça? C'est difficile de supporter. Alors qu'on prie, « Seigneur, j'ai besoin d'une parole » et cette parole ne vient pas. Et parfois on s'énerve un peu et on est encore plus dans le trouble lorsque ça ne vient pas comme on pense. « Seigneur, j'ai pourtant jeûné plusieurs jours. Comment ça se fait que tu ne me parles pas ?» Israël est donc soumis à cette épreuve, et désert égale épreuve, test, et ce sentiment d'absence de Dieu déstabilise. Ils pensent que Dieu les a oubliés, comme un enfant qui pleurniche parce que maman est partie alors que maman est juste dans la chambre d'à côté. Ils sont encore des enfants, des esclaves, non transformés et non pas des fils. En réalité, Dieu était en train de travailler pour eux. Depuis 40 jours, Dieu donne ses paroles à Moïse. Dieu est en train de télécharger son plan divin sur Moïse qui va lui devoir le transférer à son peuple. Dieu travaille pour le peuple et le peuple ne se rend pas compte. Dieu travaille pour toi et tu ne te rends même pas compte. Dieu ne t'oublie pas, tu as l'impression que Dieu ne fait rien, mais il est en train de travailler pour toi. Le silence de Dieu est insupportable pour ces gens. Et voici le verset clé, 32, verset 7. Ceci est important. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Dites-moi ce qui vous frappe dans ce texte. « Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. » Avez-vous remarqué ce qui se passe ici? Dieu ne dit pas « mon peuple que j'ai fait sortir d'Égypte » parce que c'est ça qui est juste. Maintenant, c'est ton peuple que tu as fait sortir. Ça veut dire la communion est brisée. Lorsque la communion avec Dieu n'est plus ce qu'elle devait être, écoutez bien ça, lorsque la communion avec Dieu n'est plus ce qu'elle doit être, nous devenons impatients. Nous sommes vulnérables. Nous avons envie que ça bouge. Nous avons envie de nous fabriquer notre propre solution au problème. Car nous ne supportons pas le silence et nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire. Nous avons perdu confiance, nous avons perdu la dépendance. La rupture de communion nous met en grave problème. Et je dirais ceci ce matin, mon frère, ma sœur, où en es-tu dans ta communion avec Dieu? Si tu as l'impression que la communion n'est pas comme elle devrait être, ne t'étonne pas de ton impatience, ne t'étonne pas de tes regrets, ne t'étonne pas de tes murmures, ne t'étonne pas de ce que ça ne marche pas comme tu souhaites, car c'est la rupture de la communion qui est la cause. Et le peuple, en coupant la communion, en disant maintenant, on laisse Dieu de côté, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et on se fait son propre Dieu. On change de Dieu. Là, il y a quelque chose qui se passe que nous devons bien comprendre. Ce n'est pas juste un changement de religion qui va s'opérer. Le peuple de Dieu va quitter la protection de Dieu. Lorsque tu quittes Dieu, lorsque tu n'es pas en communion avec Dieu, tu as lâché la protection de Dieu et tu deviens beaucoup plus vulnérable. Et n'oubliez pas que derrière ce veau d'or, parce que qu'est-ce que c'est le veau d'or? Ce sont les dieux d'Égyptiens qui reviennent au galop. Les choses du passé, il n'y a même pas besoin d'aller les chercher. Ils viennent vers vous. Ils vont s'introduire par la moindre brèche, la moindre porte ouverte. Les démons vont s'introduire. Et derrière ce veau d'or qui est une idola, et c'est une idole puissante en Égypte, derrière ce veau d'or, il y a des hordes de démons qui vont s'abattre sur ce peuple. Ce n'est pas juste la faute du diable. C'est parce que le peuple coupe la communion avec Dieu, ne supporte pas le silence transitoire de Dieu, va lui tourner le dos pour se tourner vers une pauvre idole, un veau d'or. Et là, les démons ne vont pas se gêner. Et là, tout va dégringoler complètement. Le peuple va avoir des idées bizarres qui arrivent, des idées nouvelles. Ils vont commencer à se libérer. Ils vont se lâcher complètement dans tous les sens du terme. Ils vont se divertir à fond. Mais le divertissement dont il est question dans la Bible ici, ce n'est pas juste une soirée dansante. Hein. Ce n'est pas juste boire un verre ou quelque chose. C'est un relâchement total de tout, dans tous les sens. Lorsque on perd la protection de Dieu, lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, on est en grand danger et on est comme poussé par des mains invisibles dans des chemins mauvais. Frères et sœurs, ne fabriquons pas nos propres réponses quand nous n'avons pas reçu de réponse de Dieu. Frères et sœurs, ne disons pas « oui, oui, mais c'est comme ça ». Lorsque nous n'avons rien reçu, il vaut mieux dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce qui se passe. Je dis comme la parole de Dieu dit « j'attends en silence le secours de l'Éternel ». Je ne sais pas, je n'ai pas reçu, je ne sais pas. Il vaut mieux dire ça que de trouver et sauver sa face pour faire quelque chose. Quand c'est le silence de Dieu, c'est le temps du silence. Il faut se plier à ce silence. Lamentations 3:21 nous le dit aussi. Ne nous fabriquons pas nos propres solutions. La séduction des démons est incroyable. Chapitre 32, toujours, le verset suivant. « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais écrite. Ils se sont fait un veau de fonte, ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Le cœur de Dieu est brisé. Et Moïse va descendre avec les lois de Dieu, les paroles de Dieu. Et il va les briser. Parce que le cœur de Dieu est brisé. La parole de Dieu est brisée. Et nous sommes aussi des transgresseurs de loi, mes frères et sœurs. Nous sommes aussi des transgresseurs. La loi ne peut pas régler ce problème. Il faut remonter dans la présence de Dieu, recevoir quelque chose de nouveau. Et ce qui change tout, et c'est là le mot de conclusion. Le mot de conclusion, c'est heureusement qu'il y a Moïse. Heureusement qu'il y a l'homme appelé par Dieu, l'homme élu comme étant le libérateur d'Israël. Heureusement que lui va intercéder. Son intercession, alors que Dieu veut rayer ce peuple et prendre Moïse pour faire de lui un nouveau peuple. Moïse va dire, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Tu ne les as pas amenés jusqu'ici pour qu'ils meurent dans le désert, que tout le monde entier, que les Égyptiens disent, mais voilà ce que Dieu fait en réalité. Seigneur, il faut que ça change. Seigneur, le témoignage de ton peuple est en jeu. Ton honneur est en jeu. Je vais prier, je vais intercéder. Et l'intercession d'un seul homme a changé le cours des choses. Mes amis, l'intercession fidèle de Jésus-Christ en notre faveur est indispensable. Et c'est à cause de son intercession que vous êtes là ce matin. C'est à cause de son intercession que nous sommes là aujourd'hui. Il prie pour nous. Et à son exemple, mon frère, ma sœur, deviens un intercesseur en disant, Seigneur, ton honneur est en jeu, ton peuple est en jeu, son plan est en jeu. Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Et l'intercession ardente de Moïse, que nous verrons encore à d'autres reprises, va changer les choses. Il nous est dit que Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 27, qu'il avait reçu dans son cœur, face à Pharaon déjà, qu'il s'est montré ferme en voyant celui qui est invisible. Et je reviens à ce que je disais, c'était ma conclusion. Lorsque vous perdez de vue le projet, vous ne voyez que le sable brûlant de l'épreuve. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez envie de retourner, vous avez envie de trouver vos solutions, de vous fabriquer vos idoles et de trouver quelque chose qui vous rassure. C'est toute la mentalité d'esclave, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur. La peur tue la foi. Mais la vision de Dieu donne la foi. Accrochons notre foi à la vision du Seigneur, à son héritage, à ce qu'il a prévu pour nous. Restons fermes, Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 35, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36, car nous avons besoin de persévérance, c'est Hébreux 10. Nous avons besoin de persévérance, après avoir accompli la volonté de Dieu, nous pouvons obtenir ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La marche d'Israël dans le désert, c'est une marche où il faut apprendre la confiance, la dépendance et la foi dans le Seigneur. C'est notre apprentissage aujourd'hui. Avez-vous compris, frères et sœurs, la leçon, Dieu nous veut libres. Débarrassé de la mentalité d'esclave et de la mentalité du désert, des murmures, de l'impatience, des regrets du passé. On pourrait ajouter encore de la tristesse, parce qu'il y a d'autres mentalités qui se feront jour, des lassitudes et tout cela. Le Seigneur nous veut un peuple heureux, joyeux d'être libre pour faire sa volonté. Amen.